Bien, chers amis, nous allons continuer ce soir avec le cycle du troisième séminaire trimestriel de pensée juive de l'année, qui est consacré au thème Abraham, le monothéisme, de la destruction des idoles à la construction de la civilisation monothéiste. Dans le cadre de ce séminaire trimestriel, dirigé par M. Léon Ashkenazi Manitou, qui est venu spécialement de Jérusalem avec cet objectif. Nous avons entendu tout d'abord la leçon d'ouverture par M. Ashkenazi sur le thème Abraham l'Hébreu. Aujourd'hui, M. Shmuel Triganon parlera du thème Les deux appels d'Abraham. Je n'ai pas besoin d'introduire M. Shmuel Triganon, qui est l'auteur de deux ouvrages polémique sur la condition juive, sur l'existence juive. Donc, le premier s'appelle Le récit de la disparue. Et vous voyez à travers le titre qu'il s'agit d'une allusion à l'identité juive perdue. Et le deuxième ouvrage qui s'appelle La nouvelle question juive, qui sera en vente à la sortie de la conférence. Monsieur Shmuel Triganon, qui a fini son doctorat en histoire, est un spécialiste de problèmes de l'histoire juive contemporaine, mais également s'intéresse de près aux grands problèmes fondamentaux de la condition juive, de l'identité juive, à travers le siècle, à travers l'histoire. C'est dans ce cadre que Shmuel Triganon nous parlera aujourd'hui du thème « Les deux appels d'Abraham ». Monsieur Léon Ashkenazi prendra la parole à la suite pour donner des réflexions sur le même problème et pour ouvrir le débat sur cette question. Demain soir, une conférence de révérend père Bernard Dupuis sur le thème « Abraham, une lecture chrétienne du fondateur du monothéisme hébraïque ». Le discutant sera M. Léon Ashkenazi. Mercredi, une table ronde avec l'ensemble des conférenciers réunira M. Léon Ashkenazi, M. Shmuel Triganon, M. Christian de la Campagne, le révérend père Bernard Dupuis, sous la présidence du professeur Raphaël Drey. Le thème de la table ronde sera « Monothéisme et polythéisme. Où réside la différence ?» Et je cède maintenant la parole à M. Shmuel Triganon, qui nous parlera du thème « Les deux appels d'Abraham ».
Je vous remercie. C'est un exercice un peu difficile qu'on m'a demandé de commenter un texte qui termine la fin de mon livre. Je vais essayer, peut-être avec difficulté. Je voudrais essayer de prendre Abraham un peu comme un archétype. C'est-à-dire que la richesse des grands textes, et la Torah est évidemment un grand texte, c'est que sur très peu de mots, sur très peu de lignes, il nous est donné de lire énormément. Et j'essaierai donc, si vous voulez, de vous dire comment, à mes yeux, à travers l'expérience d'Abraham, ou l'essentiel de l'expérience d'Abraham, passe toute l'aventure hébraïque, toute l'aventure d'Israël. Quel est le sens de cette aventure, tout d'abord? Eh bien, le sens de cette aventure me semble être la sortie hors du monde de la culture. La culture prise dans un sens, dans son sens le plus large, comportant ses dimensions politiques, religieuses, culturelles, artistiques, etc. Cette sortie hors de la culture, nous le savons par le Midrash, Abraham la vit totalement. La culture, vous savez que c'est quelque chose qui nous est toujours cliniqué aux hommes, toujours cher. Et d'une certaine façon, lorsque Hegel parle d'Abraham, il a bien senti que quelque chose de ce type-là passait à travers son expérience, puisque Hegel nous présente Abraham comme celui qui rompt les liens familiaux, les liens de la patrie, les liens de la culture. Alors là, je suis un peu obligé de préciser la façon dont je vois les choses, je m'y essaierai assez brièvement. Qu'est-ce qu'on pourrait entendre très schématiquement par la notion de culture? Je crois que ce n'est pas une invention, ce qui passe à travers l'expérience culturelle, c'est le rapport du père et du fils. Abraham, en fait, est un homme qui rompt avec la culture de son père, Terach, qui était un idolâtre, comme vous le savez bien, et qui était un dignitaire de la cour de Némrod. Il rompt avec cette culture qui était la culture la plus raffinée de l'époque pour faire un choix tout à fait scandaleux, qui est le choix du désert. Le choix de quitter cette ville conquise sur le désert, au milieu du désert, cette ville lumière, comme le nom de Our nous prête à entendre, cette ville lumière qui représente la victoire de la société des hommes à l'aube de son histoire, la victoire contre les éléments, contre le désert. Il déchire ses liens, il la quitte et il sort par la porte du désert. Il y a donc dans cette expérience de sortie hors de la culture, cette rupture avec la culture transmise par le père. La culture, c'est plus abstraitement ce rapport qui lie les hommes entre eux, et fondamentalement qui lie le même et l'autre, qui me lie à mon prochain, en quelque sorte. Ce rapport étant un rapport de transmission, de filiation. Le problème de la culture, le problème essentiel, est celui de savoir comment un autre peut naître de soi-même. C'est le rapport du fils, le problème du fils, le rapport de l'enfant. C'est le rapport de toute la communauté à l'individu. C'est donc le problème de l'identité. Vous savez qu'Abraham, en fait, de même qu'Isaac ensuite, a eu également un questionnement de ce type-là. Parce que le questionnement qui se pose, c'est « qui est mon fils ? Qui est le fils ? Isaac ou Ésav ?» Ismaël, Ésav ou Jacob, ou au départ Abel et Caïn. Alors, à travers ce rapport fondamental du même et de l'autre, deux possibilités s'offrent au destin humain. La possibilité de la répétition du père dans son fils. En fait, on sait par le commentaire de Rashi qui nous dit qu'après la mort de Sarah, Abraham a épousé Keturah, et on nous dit que Keturah, c'est Agar, c'est-à-dire la mère d'Ismaël. On sait que chez Abraham, il y a une tendance, une certaine pesanteur, un certain désir du choix d'Ismaël, en quelque sorte. Le choix d'Ismaël, c'est le choix le plus facile pour Abraham. C'est Ismaël qui continue Abraham. Mais en fait, ce n'est pas à son propos que le destin juif se dénoue. Ismaël, comme toute la typologie et la mythologie nous le racontent, c'est l'homme du désert. C'est l'homme de l'errance. L'ismaélisme, c'est cette expérience de l'errance, l'expérience abrahamique par excellence. À part cette répétition du père dans le fils, un autre choix est possible pour l'expérience humaine, le choix de l'avènement du fils par-delà le père. La répétition, donc, par laquelle le père reconduit sa propre image dans son fils, dans lequel il ne voit que lui-même, si vous voulez. Et nous dirons que c'est là l'expérience même de la culture, et une autre expérience qui serait l'avènement du fils par-delà le père, par-delà son image, par-delà sa représentation. La répétition du père dans le fils comme schéma de la civilisation, comme schéma de la culture. En fait, cette répétition, qu'a-t-elle été dans l'histoire ? Si on se rapporte à la mythologie, autant la mythologie grecque que la mythologie cananéenne, cette répétition s'est exprimée par un événement central qui est le sacrifice du fils, le meurtre des fils, qui est en fait comme le fondateur même de la culture. Je sais bien qu'on est habitué à cette idée à travers toute la théorie freudienne, mais c'est plutôt Freud essaye de prendre un peu le train en cours de route. C'est-à-dire que c'est le point de vue du fils, mais non pas le point de vue du père. Et on pourrait d'ailleurs faire la différence entre l'Antiquité et l'époque qu'il a suivie, essentiellement depuis la fondation du christianisme. Cette différence au niveau d'une civilisation qui se définirait par le meurtre des fils et le meurtre des pères, de l'un à l'autre. Toujours est-il que dans la tradition juive, enfin dans l'expérience juive, passerait cet avènement du fils par-delà le père, qui n'est pas la négation du Père, évidemment, et que nous annonce le prophète Malachi à la fin de sa prophétie, lorsqu'il parle de cette époque où le cœur des enfants sera, des filles sera ramené au cœur des pères. Alors, l'aventure juive, ce serait un peu cette expérience qui irait jusqu'au bout de la culture, qui assumerait la culture jusqu'à son stade ultime pour fonder un autre espace, un autre lieu. Cette expérience, en fait, on la retrouve chez plusieurs héros bibliques. Abraham, qui est un homme achevé de la civilisation hurite, Moïse, qui est un prince égyptien au fait de la culture de son temps, Salomon aussi, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est une aventure qui frappe des hommes qui ne sont pas en manque de la culture, des hommes qui ne sont pas des barbares, mais des hommes qui ont porté la culture à son point ultime. Alors, Abraham, le titre de l'expérience abrahamique, ce serait donc une expérience qui ne serait pas fondée sur la ressemblance et sur la répétition du Père à travers le Fils, sur la représentation du Père dans le Fils. Parce qu'en fait, c'est ce dont il s'agit. Cette représentation aurait pour fin de rendre présent le Père dans son Fils par-delà la mort. Enfin, c'est une idée un peu galvaudée de toutes parts, que même ceux qui ne croient pas en l'immortalité s'estiment rendus immortels par leurs enfants, si vous voulez. Enfin, c'est un peu cette idée qu'on retrouve d'une façon courante. Au lieu donc de cette expérience de la ressemblance et de la représentation qui dit bien ce qu'elle veut dire, vous savez qu'étymologiquement, la représentation c'est le masque mortuaire qu'on met sur le mort pour l'exposition de son corps, pour les derniers honneurs qu'on lui rend, qui dit bien la notion de morbidité et de mort qui passe à travers cette expérience. Contrairement donc à cette expérience de la ressemblance, il y aurait dans l'expérience juive, et on verra pourquoi, comme l'expérience d'une sortie, d'une séparation, d'une naissance. La sortie, c'est bien sûr d'abord la sortie d'Abraham hors de la culture hurite, ou chaldéenne, si vous voulez. Et c'est cette sortie qui fonde initialement l'expérience juive. Mais en fait, quand Abraham sort de Ur, rien n'est encore accompli. Rien n'est encore accompli parce que sortir de la culture, ce n'est pas simplement le choix du désert et le choix de l'errance, le choix de l'exil pour l'exil. Ce qui serait en fait sortir de la culture, ce serait un peu la définition de l'anarchisme contemporain. Ce n'est pas ça qui me semble passer dans l'expérience d'Abraham. Parce que, à la suite de cette sortie hors du monde de la culture, et de quelle culture s'agit-il ? Il se passe pour Abraham une autre expérience centrale, qui est l'expérience évidemment de l'Akeda, de ce qu'on appelle en français le sacrifice d'Isaac, mais qui n'a jamais eu lieu, et qui est comme une sortie de la sortie, comme la sortie de l'exil d'Abraham, la sortie donc de cette sortie qu'Abraham entreprend en quittant Ur, si vous voulez, le point ultime de cette sortie, le moment où les choses s'inversent. À travers cette expérience de la Akeda, de la ligature d'Isaac, comme le sens étymologique le dit, ce serait comme si Abraham répéterait la geste de la culture, y allait jusqu'au bout de la culture pour concevoir son dépassement. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire qu'en fait, si sortir de l'exil, c'est aller jusqu'au bout de la culture, cela voudrait dire que, en vérité, la culture, c'est le désert, c'est la désolation mystifiée, la désolation et la solitude qui se parent de tous les attraits et de toutes les beautés des grandes civilisations. La sortie d'Abraham sans cette expérience de la Akeda, ce serait une illusion. L'illusion que sortir, c'est simplement sortir, quitter un lieu par une porte, sans entrer nulle part. Et en fait, c'est dans cette illusion que l'expérience d'Abraham commence. En fait, toute sortie commence par une sorte de malentendu. Abraham, en sortant, en quittant Ur, croit aller vers le pays que Dieu lui indiquera. Alors qu'en vérité, il va vers une épreuve infiniment plus centrale. C'est-à-dire que l'expérience d'Abraham commence au moment de la sortie de Ur, au moment où il quitte les lieux habités de la culture et de la civilisation humaine. Cette sortie ouvre donc sur ce qui est sa propre vérité, sur l'expérience qui verra s'affirmer et se dire la propre vérité de l'expérience abrahamique. Je crois qu'on peut dire que la Akedah, enfin à mes yeux, est le texte central du texte biblique, un peu comme le paradigme du texte toranique. Alors, le malentendu, quel est-il ? En Eretz Israël, Abraham entend cet appel qui lui demande d'aller sacrifier son fils, son unique. Évidemment, Abraham croit entendre Dieu qui l'appelle. Qui l'appelle donc à sacrifier son fils. Et en fait, ce n'est pas quelque chose d'étranger, c'est quelque chose qui est connu. À savoir qu'il croit entendre un appel à fonder son expérience en culture, à fonder la culture de l'autre côté du désert, en Eretz Israël. Vous savez qu'il y a toutes sortes, évidemment, d'interprétations sur cet épisode, mais ce sont en général des interprétations morales et un peu moralisatrices, à savoir que Dieu tente, on parle du Dieu tentateur, du Dieu qui tente Abraham pour l'éprouver, etc. Mais il me semble que ces explications ne sont pas satisfaisantes au niveau de la pensée, parce que c'est en fait court-circuiter le sens philosophique ou spirituel qui passe à travers ces mots. Bon, il est sûr que Dieu appelle Abraham dans l'appel qu'il croit entendre. Mais ce qu'entend également Abraham dans cet appel, c'est aussi l'illusion de sa propre écoute à lui-même. Cette écoute en Dieu de lui-même, de la propre voix d'Abraham. Je veux dire que dans l'entente de cet appel de Dieu, Abraham ne fait que s'entendre lui-même. C'est le malentendu, si vous voulez. Et il me semble qu'il y a là, comme toujours, une première étape de l'expérience religieuse. À savoir que, psychologiquement, dans l'expérience fondamentale, l'expérience de l'amour de Dieu, c'est d'abord, souvent, l'expérience de l'amour de soi-même, de sa propre image, de la projection de sa propre image intérieure sur l'idée de Dieu. C'est pour ça que le judaïsme parle de crainte de Dieu. C'est-à-dire, dans la crainte, il y a un amour, mais un amour où le retour est bloqué. Le retour dans le sens du retour narcissique de l'image de soi-même dans le miroir, si vous voulez. Souvent également, dans l'expérience religieuse courante, on sent comme une certaine peur de la vie qui s'argumente et qui se construit derrière la croyance en Dieu. Et pourtant, ce malentendu est fondamental. Ce malentendu est fondamental parce qu'il ouvre la démarche, une démarche cruciale, la démarche vers le Moria. C'est à travers ce malentendu et cet appel qu'Abraham est appelé à fonder pour tous les hommes l'au-delà de la culture. Le premier moment, évidemment, de cet appel à aller sacrifier son fils, son unique, il doit être forcément ambigu. C'est-à-dire qu'il s'adresse à ce monde-ci, à un homme qui est dans ce monde-ci, à l'homme qui est en situation dans ce monde-ci, c'est-à-dire en situation autistique, en situation de fermeture, d'enfermement par rapport au prochain, par rapport au fils, donc, ici, puisqu'il est le prochain immédiat. Il y a donc un mal entendu par la faute d'Abraham, bien sûr, mais aussi du fait de l'exigence intérieure de cet appel, à savoir qu'il n'y a de second appel possible, l'appel qui arrête la main fatidique d'Abraham, que pour celui qui est allé jusqu'au bout de ce premier appel et qui l'a assumé totalement. C'est-à-dire que pour celui qui est au sommet du Moria, au moment de l'acte fondateur de la culture des hommes, c'est-à-dire celui qui est au bord de l'échec d'Abraham, au bord de l'échec de l'expérience juive. C'est alors à ce moment que le second appel peut être entendu, et c'est là, à mon sens, qu'est fondée véritablement l'expérience juive. Cette expérience juive, donc, que j'ai définie un peu comme l'assomption du monde tel qu'il est, le fait qu'on assume le monde, qu'on le porte, mais en vue de son dépassement. Il ne s'agit pas de sortir du monde et de rompre avec lui, mais de l'assumer totalement, d'aller jusqu'au bout de sa problématique afin de concevoir son dépassement. Et sur le point de répéter la geste fondatrice, le geste même fondateur de la culture, Abraham, évidemment, lâche le couteau sous l'effet du second appel. On peut essayer de revoir cette lecture parallèlement, à savoir voir quelle est la progression, la démarche. En fait, la sortie d'Abraham, d'Ur, de la ville de Ur, avait sorti le monde de son extériorité, avait sorti le monde de sa rigueur. C'est ce que j'appelle, dans mon langage, l'époque de la émouna. Vous savez que ça veut dire la foi, mais enfin le terme de foi en français traduit mal la notion de émouna. Ce monde de la émouna, c'est-à-dire de la foi envers et contre la rigueur du monde, parce que tout se ligue contre Abraham pour lui prouver la véracité de ce en quoi il croit. La puissance de la culture hurite, sa violence, sa domination, sa richesse, sa beauté esthétique, etc., etc. Il n'y a aucune preuve dans ce monde pour conforter Abraham. Et c'est à ce moment-là que la émouna a un sens. Mais la émouna, cette époque donc de la croyance envers et contre la nécessité et le déterminisme du monde, cette émouna est destinée à finir. Elle a un champ limite. Elle est destinée à échouer, à se sacrifier elle-même. Parce que la foi, dans le sens de émouna, c'est une réalité qui est encore pleine de la juridiction du monde de l'extérieur, du monde du din, de la rigueur. Moi, je fais un peu cette étymologie fantaisiste de émouna en la rattachant de la notion de aminout, en hébreu moderne, de la crédibilité. Être un croyant, c'est rendre crédible le Dieu en lequel on croit ou l'ordre du monde en lequel on croit. Ce n'est pas la foi quia absurdum, comme on le dit dans certaines écoles du christianisme, c'est une sorte de crédibilisation, rendre crédible quelque chose de non visible et d'encore insensible, non senti. C'est-à-dire que la foi, le comble de la foi, c'est le moment du couteau, le moment du couteau d'Abraham, le moment où on va jusqu'au bout de ce monde, jusqu'au bout de cette expérience de la culture et où l'on lève le couteau sur le Fils. Mais parce que la foi est la foi, le couteau tombe des mains. Et à cet instant, Abraham, à mon sens, peut accéder à un état supérieur de la révélation, à un monde supérieur de la révélation qu'il reçoit continuellement depuis sa sortie de Ur. Cet instant me semble donc l'instant crucial de l'expérience juive, qui est, on verra à mon sens, également une expérience historique, mais aussi une expérience dans le secret de l'intimité spirituelle de chaque croyant. L'instant le plus difficile, parce que il s'agit dans le passage qu'était la sortie hors de la ville de Ur, dans le passage qu'est la émouna, cette expérience où il faut rendre crédible quelqu'un ou quelque chose d'absent, il s'agit dans ce passage d'opérer un autre passage. Pourquoi opérer un autre passage dans le passage? Vous savez, sans doute, on a dû vous le rappeler, que la notion de ivri, de l'hébreu, c'est la notion du passage. Pourquoi opérer donc un autre passage? Eh bien, pour sortir le passage du passage, c'est-à-dire pour sortir le désert de lui-même, pour sortir, comme dirait le discours prophétique, pour faire du désert un fleurissement, une floraison. Et c'est à ce moment-là, au moment donc où Abraham est sur le point de sacrifier Isaac, c'est à ce moment-là que l'exil, ce qui est un exil d'Abraham par rapport à la culture hurite, c'est à ce moment-là que cet exil s'inverse. C'est à ce moment-là que cet exil se révèle un retour, C'est à ce moment-là que la référence de sa sortie n'est plus à l'arrière, à savoir la culture de Ur, mais à l'avant, un autre lieu, autre chose. Et ce moment, c'est le moment le plus dur et le plus important de la judéité, parce que c'est un moment qui est encore en proie à la fascination. Il faut se rendre compte qu'Abraham lève encore le couteau sur Isaac, malgré le mal que cela lui fait. Il lève le couteau comme un somnambule. Il est comme fasciné, obnubilé par ce qu'il est en train de faire, malgré lui, au niveau moral évidemment. Il y a comme une éclipse de la conscience qui se produit à ce moment-là, comme une fascination par le couteau, une centralité du couteau, comme la prédominance dans la conscience d'une factualité brute et brutale. Et c'est le second moment qui éveille, qui réveille de cette éclipse de la conscience. C'est-à-dire qu'il y a deux appels. Les deux appels qu'Abraham entend à ce moment-là. Le premier appel, qui le fait d'entendre une voix, si vous voulez, puisqu'il entend Abraham, il n'entend rien de spécial, si vous voulez. Le premier appel est un appel qui fait comme sortir Abraham de l'acte qu'il est sur le point d'accomplir, qui le fait sortir de ce monde de la rigueur, de ce monde du déterminisme laissé à lui-même, qui pousse le père à supprimer le fils pour se reconduire, parce qu'il y a là une contestation, une concurrence au niveau de l'être. Et le second appel qui sort Abraham totalement de cette fascination, qui le sort en le faisant se retourner vers l'arrière, vers là d'où il entend la voix lui parler, et qui l'ouvre à l'arrière, au buisson, où se trouve le bélier qui sauvera la vie d'Isaac. Le premier appel me semble valoir comme un recul par rapport à ce monde, au bord duquel l'expérience juive se trouve vraiment. Ce bord que l'expérience juive frôle sans cesse, le bord de la culture qu'elle frôle sans cesse. Le second appel me semble ouvrir un autre monde, me semble être l'ouverture d'un monde différent, d'un monde autre. Bien, voilà, si vous voulez, un peu très, extrêmement schématiquement le schéma de cette perspective. Je vais vous expliquer où je veux en venir en fonction de ce texte qu'on m'a demandé d'exposer. Ce que je voudrais dire, ce que j'ai dit il y a un instant d'ailleurs, c'est que il en est de l'histoire d'Abraham comme de l'histoire spirituelle de chacun. L'histoire d'Abraham à ce niveau de la sortie, de la Akeda, etc., du Moria, mais comme également, à mon sens, de l'histoire collective du peuple juif. Ma façon de lire le texte biblique est une façon de le lire comme un texte non achevé, c'est-à-dire un texte qui porte notre expérience, qui porte déjà notre expérience, à nous qui sommes pourtant à 25 siècles de distance, ce qui veut dire que nous sommes en plein dans l'histoire biblique aujourd'hui, à travers notre expérience dans le monde, qui est l'expérience d'héritier d'Abraham, bien sûr. Et que peut-être, expérience que peut-être nous revivons par atavisme ou par vocation, enfin bon, pour en discuter si vous voulez. Je veux dire par là que nous revivons collectivement, à mon sens, cette épreuve dans le peuple juif, depuis quelques siècles. C'est normal, en fait, parce que j'ai essayé de vous présenter, dans ma conception, puisque j'ai essayé de vous présenter la Akeda et cette expérience comme l'épreuve clé de la conscience juive. Dans la Akeda, je crois qu'on peut lire aussi la création du monde. Enfin, je crois que c'est un texte central dans la mesure où il est question du même et de l'autre, c'est-à-dire de la reconnaissance du prochain, de la création du monde. Je crois qu'il en est du texte de la Akeda comme du texte de la création du monde. On pourra revenir là-dessus, si vous voulez, dans le débat. Véritablement, chaque jour qui passe, chaque jour hébraïque évidemment qui passe, chaque yom, est comme une expérience, cette expérience de la montée sur le Moria et de cette descente du Fils libéré. Chaque jour, cette expérience se reproduit et se manifeste. Alors, qu'est-ce qui se donne donc à lire au niveau de l'histoire ? Si vous voulez, l'histoire moderne que nous vivons, c'est une histoire qui commence, enfin pour la période dans laquelle nous trouvons, c'est une histoire qui commence vers le XVIe siècle. C'est sur cet élan-là, sur ce dynamisme que l'histoire moderne du peuple juif s'est vécue. Et cette histoire s'est vécue sur un arrière-fond d'exil et de catastrophes. L'exil d'Espagne, les catastrophes des persécutions des Cosaques en Ukraine et en Europe centrale, etc. Mais elle s'est surtout vécue sous le signe d'un appel puissant au retour, tel qu'il s'est manifesté dans la conception du lourianisme d'Yitzhak Luria, ce mystique de Tzfat en Galilée. Pourquoi cet appel est-il venu de ce lieu-là ? D'abord, c'est un fait historique, objectif, si vous voulez. Enfin, on va le voir dans un instant, que cette expérience de la pensée juive, de l'intériorité, va marquer une rupture, une fracture dans l'histoire juive, qui va l'inverser totalement dans un autre sens, bien malgré soi d'ailleurs souvent, mais enfin, ça fait partie de cette expérience précisément de la montée sur le Moria et de la descente. Elle s'est vécue comme un appel puissant au retour, à la sortie d'abord, mais au retour, dans la mesure où le lourianisme a été capable de maîtriser les notions d'exil et les notions de retour, de les nommer d'abord et de les maîtriser en une théorie cohérente où les Juifs occupaient un rôle central et non plus un rôle passif. Le lourianisme a été un peu comme cet appel à se mettre en marche vers le Moria. Qui entendit cet appel? Il me semble que ceux qui entendirent cet appel furent les sabbatianistes. Vous connaissez tous cette histoire du fameux faux messie Chatazvi, qui finit par se convertir à l'islam sous la menace du sultan de Constantinople. Mais ce serait moins intéressant, si vous voulez, si ce n'était que ça, c'est que derrière cela, il y a eu toute une tentative intellectuelle et philosophique et mystique qui a eu des conséquences très importantes dans l'histoire juive, quoi qu'on en pense. Et malgré, et bien que l'historiographie officielle des Juifs ait fait l'impasse sur cette expérience depuis deux siècles. Il me semble que les sabbatianistes entendirent cet appel, c'est-à-dire qu'ils l'entendirent mal, puisque le malentendu est toujours le premier moment de cette écoute. Ils partirent véritablement pour sacrifier Israël, Isaac, si vous voulez, sur le Moria. Ils l'entendirent mal parce qu'en fait, ce fut le choix d'Ismaël, si je veux reprendre cette typologie. Et il y a des textes absolument confondants à ce niveau-là, où l'on nous dit que, par exemple, la Shekhina doit se revêtir des vêtements d'Ismaël, ce qui voulait dire que les Juifs devaient se convertir à l'islam. Bon. Mais je veux cette notion, cet archétype d'Ismaël qui soit présent dans cette expérience dévoyée de la conscience juive. Ils partirent donc sur le Moria. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que l'expérience du sabbatianisme a été cette expérience où le peuple juif, collectivement, et il faut dire que ça concernait une grande partie du peuple juif, a renoncé à l'extériorité d'Israël, c'est-à-dire à la présence d'Israël dans le monde. C'est-à-dire à la différence d'Israël, à l'altérité d'Israël dans le monde. Pourquoi ? Prosaïquement, parce qu'il s'agissait de se convertir dans l'Orient à l'islam et en Pologne au christianisme, c'est-à-dire de faire du maranisme, cette expérience du travestissement du juif sous l'identité des autres, de faire du maranisme une norme centrale. Et il y a là comme ce départ vers le Moria pour supprimer l'existence d'Israël dans le monde, au nom de lui-même d'ailleurs, parce qu'ils étaient, sincères, si vous voulez, tout le monde est toujours sincère, et qui accomplit, alors, qui entendit cet appel, donc les sabbatianistes. Après le sabbatianisme, une autre époque s'ouvre dans l'histoire juive, qui est l'époque de la Haskalah. C'est-à-dire que la Haskalah, pour reprendre cette typologie spirituelle, me semble être cette démarche de l'histoire juive qui gravit le Moria, qui gravit le Moria dans le silence, dans la méditation de la mort d'Israël, avec évidemment en partenaire le judaïsme, celui des origines, de l'authenticité, qui par la peine, comme Isaac sur le chemin du Moria, et qui demande « Mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» sans savoir que c'est de lui qu'il s'agit. La Haskala, comment puis-je la définir, la localiser ainsi, en fonction de son projet ? La Haskala, son projet essentiel, on le dit, on le répète, fut de normaliser le judaïsme, de normaliser le juif. Et dans cette expérience de la normalisation du juif, l'entreprise centrale, c'est l'entreprise de transformer le judaïsme, qui au départ est la tradition, en culture. C'est-à-dire, soudain, au début du XVIIIe siècle, les Juifs se trouvent nus. Ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas de romans, pas de pièces de théâtre, pas de très peu de poésie, pas d'essais, etc., etc. Et la Haskala entreprend de créer la culture juive, qui est une création originale, puisqu'il n'y en a pas, si vous voulez. La culture juive, donc, sur le mode, le modèle de la culture. Le modèle de la culture occidentale, en l'occurrence. C'est-à-dire, à l'inverse de ce qu'essaye de dire Claude Vigée, c'est pas un judan qu'on écrit, c'est un roman. Le roman faisant référence à Rome. Et la Haskala, évidemment, c'est un âge de la pensée éclairée. C'est l'apologie du rationalisme, du déisme, de l'ère des Lumières, etc., etc. Dans l'inconscience la plus totale de ses origines. Ces origines qui sont extrêmement mystiques et, à ses yeux, sans doute, délirantes. À savoir, cette expérience mystique profonde que fut le sabbatianisme et le franquisme en Pologne. Cette montée de l'histoire juive vers le Moria, vers ce moment fatidique, c'est donc la montée que j'ai définie comme la méditation de la mort d'Israël. Et c'est bien de cela dont il s'agit, puisqu'en fait, toute la littérature de l'époque, toute la pensée, une pensée idéaliste, c'est-à-dire qui renonce à la dimension historique d'Israël, de son message, du peuple juif. C'est aussi l'expérience de la fameuse science du judaïsme, la Wissenschaft, qui étudie le judaïsme comme un cadavre et qui le dissèque sous un scalpel, comme un objet exotique et antique, si vous voulez, un peu comme l'orientalisme des savants européens de l'époque. C'est aussi la naissance d'une culture juive fondée sur l'apologétique, c'est-à-dire que le juif ne va plus parler, il ne va plus dire quelque chose, mais il va se défendre, sans cesse et sans cesse, devant le tribunal de la culture universelle, bien sûr, devant lequel il est en défaut, puisqu'il n'a pas de culture. Les juifs, donc, sortent de l'histoire, et c'est ce qu'est notre culture depuis deux siècles. Alors, la Haskala me semble conduire directement à l'épisode, à l'expérience du sionisme politique. Le sionisme politique, en fait, me semble accomplir la Haskala. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, la Haskala, qu'est-ce qu'elle recherchait ? L'émancipation des Juifs. D'une certaine façon, la vérité de l'émancipation des Juifs, c'est le sionisme. C'est le sionisme politique, c'est pas l'émancipation citoyenne. Dans les nouvelles démocraties occidentales, c'est le sionisme politique à propos duquel on peut véritablement parler d'émancipation, qui est à ce point une émancipation, une normalisation, qu'il va construire, fonder, évidemment sur le sommet du Moria, tout près de Sion, l'État. L'État comme l'instance qui va dire la norme. La norme, c'est l'État qui normalise, si vous voulez, ses citoyens. Le plus loin de la normalisation des Juifs, c'est l'État. Pour être normal, il faut être comme les autres, c'est-à-dire avoir au minimum un État. Et cette expérience donc du sionisme qui exprime l'essentiel de l'émancipation, me semble-t-il, ce qui explique pourquoi finalement aujourd'hui la diaspora est sioniste, paradoxalement, c'est-à-dire tout en étant diaspora, elle est sioniste, si vous voulez, c'était bizarre quand même. Cette expérience donc du sionisme est également la tentative de fonder l'existence juive sous la forme de la culture. Bon, c'est-à-dire qu'on rénove la langue hébraïque, bien sûr, on crée une autre culture, une culture qui ne qui ne s'enracine pas nécessairement dans ce qui a fait la culture du peuple juif depuis toujours, enfin dans sa tradition, et qui est une autre culture. C'est le mythe de l'homme nouveau. Le mythe de l'homme nouveau qui hante le projet du sionisme politique. Bref, la culture juive devient la culture israélienne. Alors, le sionisme, dans cette démarche spirituelle, me semble ce moment où Abraham lève le couteau. Me semble être ce moment où le judaïsme, l'expérience juive, va jusqu'au bout de l'expérience de ce monde, et on ne peut pas aller plus loin, si vous voulez, que l'État, par exemple. C'est-à-dire que, à travers ce couteau, si vous voulez, j'invente à peine, si on relit par exemple des auteurs classiques du sionisme, par exemple Berdichevski, on trouve toute une réflexion sur le glaive qu'on oppose au livre, l'idée de fonder à nouveau le peuple juif sur un culte de héros. Enfin, Berdichevski fera même un épitomé de la Bible avec les histoires héroïques, Samson, David, etc. Il se crée une Bible à lui-même, si vous voulez, fondée donc sur le glaive, sur le couteau. C'est-à-dire que, à mon sens, à travers le sionisme politique, passe toute la vérité et tout le paradoxe de l'existence. L'analyser, bien sûr, qui s'est émancipée, ne va pas jusqu'au bout d'elle-même. Ne va pas jusqu'au bout de son expérience, si l'on peut dire, autant spirituelle qu'historique, dans la mesure où elle reste dans les demi-teintes, dans la demi-mesure. Et la vérité même de l'émancipation, c'est le sionisme politique. C'est la vérité de l'émancipation, puisqu'alors le peuple juif devient véritablement un peuple comme les autres, mais c'est aussi le lieu symbolique et le lieu historique de son dénouement, du dénouement de toute son expérience. Bien, ce moment du sionisme politique me semble être un des moments les plus difficiles de l'histoire juive et de l'expérience spirituelle d'Israël. Dans la mesure où la conscience d'Israël, ou le sionisme, si vous voulez, est impressionnée, marquée par la violence de l'acte qu'il est en train d'accomplir, cette violence de l'acte qui n'est que la traduction de la violence du monde. Pourquoi Israël est-il particulièrement insupportable à certains? C'est parce qu'en fait, ils signent leur propre image, ils renvoient la propre image de la réalité culturelle, de la réalité de la culture du monde, de la réalité politique du monde. Mais le sionisme, s'il est aussi le moment où Abraham lève le couteau, il est aussi le moment où Abraham entend le premier appel qu'il entend sur le mont Moria, au moment de sacrifier son fils. Où il entend cet appel, donc, le couteau en main, et comme fasciné et en retrait sur cet acte, si vous voulez. C'est-à-dire que le sionisme politique, il est porté par cet élan, mais en même temps en retrait. C'est un retrait extrêmement subtil, extrêmement fragile, extrêmement délicat. Le sionisme politique est ce moment de l'empêchement que le sacrifice s'accomplisse. Et je ne peux m'empêcher de penser aussi au sacrifice, enfin entre guillemets, du judaïsme européen lors de la Deuxième Guerre. Il est le moment de l'empêchement que le sacrifice s'accomplisse, mais en même temps, sa proximité extrêmement dangereuse. Ce qui pourrait expliquer pourquoi le schéma d'Auschwitz et de la Seconde Guerre mondiale est central également dans la conscience israélienne. Mais par sacrifice, j'entends quelque chose de plus profond, à savoir la fondation de la culture des hommes à l'intérieur de l'expérience juive. C'est le moment le plus dangereux parce que le couteau est levé, mais il est prêt à s'abattre, à se rabattre. Il est prêt à être repris par la pesanteur du monde, par la pesanteur des choses et par le déterminisme des événements humains. C'est donc le moment qui me semble spirituellement le plus dur, et on voit qu'il est le plus dur puisque le sionisme est très peu spirituel, si vous voulez. Il est très factuel, très pragmatique, il est bitsouiste, comme on dit en hébreu. C'est donc le moment le plus dur de l'expérience juive, mais aussi le moment crucial de cette aventure. Évidemment, ce qu'Abraham vit en quelques instants ou en quelques jours, nous le vivons depuis 2 siècles, nous. En tout cas, c'est un moment qui peut durer quelques dizaines d'années et peut-être plus. Ce qu'Abraham, en fait, a vécu en concentré sur un court laps de temps, nous le vivons parce que nous le vivons collectivement, c'est-à-dire dans un rassemblement d'hommes et de femmes qui sont à des niveaux de conscience différents.